Chapitre 7. Voyage. Il faut éviter de commettre l'erreur de considérer les îles d'outre-mer comme un royaume sous la domination d'un seul souverain, à l'instar de nos six duchés, ou l'alliance de plusieurs peuples telle qu'on la trouve dans les montagnes. Même les îles, si réduites qu'elles paraissent, n'obéissent pas à la loi d'un seigneur ou d'un noble unique. Du reste, on ne parle pas de seigneur ni de noble chez les Outriliens. Le statut des hommes dépend de leur prouesse guerrière et de la valeur des butins qu'ils rapportent. Certains bénéficient de l'appui de leurs clans matriarcaux pour soutenir la réputation qu'ils acquièrent par la force des armes. Les clans ont leur territoire sur les îles, certes, mais ces étendues renferment les terres arables et les grèves de ramassage des mollusques qui appartiennent aux femmes et se transmettent de mère en fille. Les villes, surtout portuaires, ne ressortissent à aucun clan, et il y règne, en général, la loi du plus fort. La garde municipale n'intervient pas si l'on se fait dépouiller ou agresser. Chacun doit commander le respect qui lui est dû, et si l'on appelle à l'aide, on passe pour faible et indigne d'attention. Dans certains ports, cependant, le clan dominant de la région peut avoir implanté une maison forte et s'ériger en juge des querelles locales. Les Outriliens ne bâtissent pas de châteaux ni de forts tels que nous les connaissons dans les six duchés. Chez eux, un siège vise à s'emparer d'un port ou à prendre la maîtrise de l'embouchure d'un fleuve à l'aide d'une flotte de navires plutôt qu'à conquérir un territoire grâce aux assauts d'une force terrestre. Toutefois, il n'est pas inhabituel de trouver une ou deux maisons fortes claniques dans les grandes villes. Il s'agit de bâtiments fortifiés, conçus pour soutenir des attaques et souvent pourvus de caves profondes, d'un puits pour l'approvisionnement en eau douce et de considérables réserves de vivres. Ces maisons fortes appartiennent en général au clan dominant de la bourgade et répondent davantage à la nécessité de se protéger des conflits intestins que de se défendre contre les agressions extérieures. Voyage dans les îles d'outre-mer, par Shelby. Dès mon réveil, je perçus l'apaisement du navire. Je n'avais dormi que quelques heures, mais je me sentais reposé. Par terre, autour de moi, les hommes gisaient, profondément endormis après avoir manqué de sommeil depuis plusieurs jours. Je me levai à mouvements précautionneux et me dirigeai vers mon coffre en évitant de marcher sur les gardes assoupis. Je rangeai ma couverture, changeai de chemise, puis remontai sur le pont. La nuit s'avançait vers le matin. Les nuages s'étaient vidés de leur pluie et des étoiles pâlissantes pointaient entre leurs rideaux déchirés. On avait rétabli les voiles pour profiter d'un vent plus propice. Pieds nus, les matelots vaquaient à leurs tâches avec discrétion et compétence. On se fût cru à l'aube calme qui succède à une tempête. Je trouvais lourd, roulé en boule, dormant à poings fermés, le visage détendu et paisible, la respiration régulière. Tram somnolait près de lui, la tête courbée sur ses genoux repliés. Je distinguais vaguement la silhouette noire d'un oiseau perché sur le bastingage, sorte de mouette plus grande que la moyenne. Je surpris l'éclat de son œil, et de la tête, je saluai courtoisement Risque, tout en m'avançant lentement pour laisser le temps à Tram de sortir de son assoupissement et de se tourner vers moi. Il me sourit.
Il a l'air moins agité. Le pire est peut-être derrière lui.
Je l'espère, répondis-je. Avec prudence, je m'ouvris à la musique de l'our. Elle n'avait plus la puissance d'un ouragan, mais elle demeurait constante, comme le bruit des vagues. La chanson de sa mère y avait retrouvé sa prépondérance, quoique j'y perçusse le ronronnement d'un chaton et l'écho rassurant de la voix d'Ortie qui lui promettait amour et sécurité. Cela me troubla. Entendais-je ma fille seulement parce que j'avais assisté à la modification du rêve de l'our, ou bien Imbre et le prince capteraient-ils également ses paroles?
« Vous paraissez plus reposé, vous aussi, » dit Tram, interrompant mes réflexions et me rappelant à la réalité et aux règles de la politesse.
« Oui, en effet, et je vous en remercie. » Il tendit la main. Je la pris et l'aidai à se redresser. Debout, il fit rouler ses épaules et sa mouette se rapprocha d'un pas ou deux sur la lisse. Dans la lumière croissante, je remarquais le jaune soutenu de son bec et de ses pattes. Des longues années que j'avais passées auprès de Burick, il me semblait me souvenir que des couleurs vives indiquaient un animal bien nourri. L'oiseau irradiait la bonne santé. Comme conscient de mon admiration, il tourna la tête et lissa une longue rémige, puis, sans plus d'effort qu'un chat qui saute sur un fauteuil, il déploya ses ailes. Le vent emplit leur courbure et il s'éleva dans les airs.
« Quel esprouf !»
murmura Tram, et il me sourit. Je songeais alors que des compagnons de vif tirent le même orgueil un peu niais l'un de l'autre que des parents de leur enfant. Je lui rendis un sourire compréhensif.
« Ah, cette fois je vous crois sincère. Avec le temps, mon ami, je pense que vous perdrez votre méfiance envers moi. Prévenez-moi quand ce sera le cas. »
Je poussai un petit soupir. La bienséance aurait voulu que je proteste de la confiance que je lui accordais. Mais je ne me jugeais pas assez bon comédien pour l'abuser. Aussi, me bornai-je à hocher la tête. Puis, comme je m'apprêtais à m'éloigner, je pensai à l'Est. « J'aurai un autre service à vous demander, » fis-je avec gêne. Il se retourna vers moi avec une expression de plaisir non feinte.
« J'y vois un signe de progrès. »
« Pourriez-vous prier l'Est de me réserver un peu de temps aujourd'hui ? J'aimerais lui parler. » Tram pencha la tête, comme une mouette examinant un clam douteux.
« Comptez-vous le réprimander parce qu'il n'est pas rentré chez son père ? »
Je réfléchis. Allais-je le rabrouer ? Non. Je lui dirai seulement que je tiens pour essentiel à mon honneur qu'il regagne Castelcerf sain et sauf, et aussi qu'il doit poursuivre ses leçons avec moi pendant son voyage.
Néda, Quimbre se réjouirait,
me dis-je aigrement. J'avais déjà amplement de quoi occuper mes journées, et voici que je me chargeais d'une nouvelle tâche. Le visage de Tram s'éclaira d'un sourire chaleureux.
« C'est avec joie que je l'enverrai écouter ses propos, » répondit-il.
Après une brève inclination du buste à la mode des marins, il me quitta et je lui rendis son salut de la tête. Sur la suggestion que je lui artisais, le prince se leva tôt et me rejoignit sur le pont en attendant que l'ours se réveille. Un serviteur apporta du pain chaud et une tisanière bouillante dans un petit panier, et les arômes qui s'en échappaient me firent prendre conscience de mon appétit de loup. Il déposa les provisions près de l'ours, le prince le congédia, et nous nous perdîmes dans la contemplation silencieuse de l'océan.
Quand donc sa musique a-t-elle changé ?
À mon réveil ce matin, je me sentais extraordinairement détendu et reposé. Il m'a fallu du temps avant de comprendre d'où cela provenait.
C'est un véritable soulagement, n'est-ce pas ?
J'aurais voulu en dire davantage, mais n'osais pas. Je ne pouvais avouer au prince que j'avais modifié les rêves de l'ours parce qu'en réalité, ce n'était pas mon fait. L'ours n'avait sans doute pas eu conscience de ma présence. Il me tira de ce moment délicat en toussant brusquement, puis en ouvrant les yeux. Il nous regarda, Devoir et moi, et un sourire apparut lentement sur ses traits.
« Orti a arrangé mon rêve, »
dit-il, puis... Avant que nous ayons le temps de réagir à cette déclaration, une quinte de toux le saisit. Elle se calma enfin.
« Je ne me sens pas bien. J'ai mal à la gorge. »
Je sautai sur l'occasion de changer de conversation. « Sûrement à cause de tes efforts pour vomir. Tiens, regarde l'ours. Devoir t'a apporté du pain frais et de la tisane qui te fera du bien à la gorge. Veux-tu que je te serve ?» Une nouvelle crise de toux l'empêcha de répondre. Je m'accroupis et posai la main sur sa joue. Je la trouvai chaude, mais comme il venait de s'éveiller, emmitouflé dans plusieurs épaisseurs de laine, cela ne signifiait pas qu'il avait de la fièvre. À geste agacé, il se débarrassa de ses couvertures et resta à grelotter dans ses vêtements humides et fripés. Il paraissait malheureux comme les pierres, et sa musique commença de prendre un ton discordant. Le prince agit aussitôt. « Blaireau, prenez le panier. » L'ours, tu rentres avec moi à la cabine, tout de suite.
« Je ne veux pas !»
fit le petit homme d'un ton gênant. Puis, à ma grande stupéfaction, il se leva lentement. Il fit un pas chancelant, se tourna vers les vagues ondoyantes et déclara comme s'il venait de s'en souvenir.
« J'ai le mal de mer. »
« C'est pourquoi je veux te ramener à la cabine. Tu t'y sentiras mieux. »
« Non, je ne m'y sentirai pas mieux. »
répliqua Lourd d'un ton buté. Pourtant, quand Devoir s'éloigna, il lui emboîta lentement le pas, d'une démarche rendue instable, à la fois par sa propre faiblesse et les oscillations modérées du pont. Je lui pris le bras pour le soutenir, le panier intact pendu à mon autre coude, et il avança en titubant à mes côtés. À deux reprises, des quintes de toux l'obligèrent à s'arrêter, et quand nous arrivâmes devant la porte du prince, ma préoccupation s'était muée en inquiétude. La cabine de Devoir bénéficiait d'une décoration et d'un ameublement plus chargé que sa chambre de Castelserre. À l'évidence, le responsable de son installation avait obéi à la conception classique de ce qui convient à un prince. Une rangée de hublots donnait sur le sillage du navire, de somptueux tapis couvraient le plancher verni et le lourd mobilier solidement fixé demeurait insensible au mouvement du bateau. La majesté de la pièce m'aurait sans doute plus impressionné si j'y avais séjourné davantage. Mais Lourd se dirigea droit vers sa petite chambre, annexe à la salle principale et beaucoup plus modeste, guère plus grande qu'un placard aux dimensions de sa couchette, sous laquelle un espace permettait de ranger des affaires. Le concepteur l'avait probablement prévu pour un valet, non pour le simple d'esprit qui ne quittait plus le prince. Lourd se laissa tomber aussitôt sur le lit, et il gémit en marmonnant des paroles inintelligibles quand j'ôtais ses habits salis et imprégnés de sueur. Puis j'étendis sur lui une couverture légère et il s'y pelotonna en se plaignant du froid, les dents claquantes. J'allai chercher un couvre-pied épais sur le lit du prince. Il avait la fièvre, j'en étais sûr à présent. La tisane avait un peu refroidi, mais j'en versai tout de même une tasse et m'assis à côté de Lourd pendant qu'il la buvait. Je contactai Devoir par l'art, et il nous fit préparer de l'infusion d'écorce de saule pour la fièvre et du sirop de racine de framboisier pour la toux. Quand le serviteur les eut apportés, il me fallut quelque temps pour convaincre Lourd de les prendre. Mais sa faiblesse paraissait avoir érodé son entêtement, et il finit par accepter. La pièce était si exiguë que je ne pouvais fermer la porte en restant assis sur le lit. Aussi demeura-t-elle ouverte, et j'observais désœuvrée les allées et venues dans la cabine du prince. Rien ne retint guère mon attention avant l'arrivée du clan de Vif de Devoir, composé de Civil, de Tram, de Niel le Ménestrel et de Lest. Le futur souverain, assis à sa table, répétait à mi-voix son discours en outrilien quand ils entrèrent. Il congédia le domestique qui les avait introduits, puis écarta son parchemin avec un soulagement visible. Le marguet de Civil alla aussitôt s'installer confortablement sur son lit. Nul ne parut y prêter intérêt. Tram jeta un coup d'œil, l'air étonné, avant de saluer le prince. « Tout va bien dans le ciel, prince Devoir. » Je trouvai la formule singulière jusqu'au moment où il me vint à l'esprit qu'il rapportait les paroles de son oiseau, Risque. « Nul autre navire que les nôtres n'est en vue. » « Parfait. » L'adolescent lui sourit avant de reporter son attention sur les autres. « Comment va votre marguet, Civil ?» Le jeune garçon leva la main et sa manche dévoila en retombant une griffure enflammée le long de son avant-bras. « Il s'ennuie et l'enfermement l'énerve. Il attend avec impatience que nous touchions terre. » Tous les vifiers éclatèrent d'un rire indulgent comme des parents parlant d'un enfant cabochard. Je remarquai qu'aucun ne paraissait mal à l'aise devant le prince, à part l'Est, dont l'attitude un peu raide pouvait provenir de ma présence aussi bien que de sa différence d'âge avec ses semblables. Je me rappelais que les nobles, les plus proches de vérité, affichaient la même détente avec leur roi servant, et je songeais que l'affection naturelle de ces hommes valait mille fois les courbettes et les flagorneries des courtisans de royal. Aussi la question de Tram n'eut-elle pas l'air trop déplacée quand il se tourna vers moi et demanda à Devoir. « Tom Blaireau a-t-il décidé de se joindre à nous aujourd'hui, monseigneur ?» Je perçus deux interrogations en une. Comptais-je avouer mon vif, voir mon identité, et voulais-je m'intégrer à leur clan ? Je retins mon souffle, tandis que Devoir répondait. « Pas exactement, Tram. Il soigne mon compagnon Lourd. J'ai appris que vous avez veillé sur lui pendant la nuit pour permettre à Blaireau de se reposer, et je vous en remercie. Mais le froid nocturne a pris Lourd aux bronches, et il a de la fièvre. Il trouve quelque bien-être auprès de Blaireau qui a accepté de rester à son chevet.
Ah, je vois. Eh bien, Lourd, je regrette d'apprendre que tu es malade. » Tout en parlant, Tram passa la tête par la porte. Derrière lui, autour de la table, les membres du clan poursuivaient leur bavardage discret, mais l'Est observait le marin d'un air anxieux. Le simple d'esprit, pelotonné sous ses couvertures, tourné face au mur, ne parut guère s'apercevoir de sa présence. Même sa musique d'art était assourdie, comme si l'énergie lui manquait pour la diffuser. Comme il ne répondait pas, Tram posa doucement la main sur mon épaule et murmura « Je veillerai encore sur lui ce soir si vous désirez vous reposer. En attendant… » Il se détourna et fit signe à l'Est de s'approcher. Une brusque appréhension assombrit le visage de l'enfant. « Je vous laisse, mon page. Vous avez certainement beaucoup à vous dire, et si vous avez besoin de quoi que ce soit pour Lourd, l'Est se fera un plaisir de vous l'apporter. N'est-ce pas, mon garçon ?» L'intéressé se trouvait acculé, et le savait parfaitement. Il s'arrêta près de Tram avec l'air d'un chien battu et garda les yeux baissés.
« Oui, messire, » répondit-il à mi-voix.
Il me regarda soudain, et ce que je lus dans son expression me déplut. J'y déchiffrais de la peur et de l'aversion. Or, rien dans mes actions ne justifiait pareil sentiment, me semblait-il. « L'Est, » dit Tram, et l'enfant tourna son attention vers lui. Il poursuivit à voix basse, afin que nous seuls l'entendions. « Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. Tom souhaite s'assurer que tu poursuivras ton instruction à bord, c'est tout. » « Non, ce n'est pas tout, » déclarai-je à ma propre surprise. Tous deux me regardèrent fixement, et Tram haussa les sourcils. « J'ai fait une promesse, » repris-je. « J'ai donné ma parole à ta famille de te protéger, fût-ce au péril de ma vie, et de te ramener chez toi à la fin de cette aventure. »
« Et si je ne veux pas rentrer chez moi ?»
Je t'aleste avec insolence en haussant la voix. Je sentis plus que je ne vis le prince réagir à l'éclat. L'enfant ajouta, d'un ton outré,
« Mais, attendez, comment avez-vous pu parler avec mon père? Vous n'avez pas eu le temps de dépêcher un messager et de recevoir une réponse avant notre départ. Vous mentez !»
Je pris une longue inspiration. Quand je me sentis en état de m'exprimer calmement, je répliquai à mi-voix, « Non, je ne mens pas. J'ai envoyé ma promesse au tien. » Je n'ai pas dit qu'ils avaient répondu. Je ne m'en considère pas moins tenu par ma parole.
« Vous n'avez pas eu le temps !»
répéta-t-il, mais plus bas. Tram lui adressa un regard réprobateur et le transféra ensuite sur moi, mais je le soutins sans fléchir. J'avais juré de protéger le gamin et de le ramener chez lui sain et sauf. Cela n'entraînait pas que je devais supporter ses insultes avec le sourire. « Le voyage risque de vous paraître long à tous les deux, » fit Tram. « Je vous laisse, en espérant que vous tirerez le meilleur parti de votre compagnie. Vous avez beaucoup à vous apporter l'un à l'autre, je pense, mais vous n'y attacherez de valeur que si vous le découvrez par vous-même. »«
J'ai froid !»
gémit Lourd, m'épargnant la suite du sermon. « Eh bien, voici ta première tâche, » dis-je à l'Est avec brusquerie. « Demande au valet du prince où tu peux te procurer deux couvertures supplémentaires pour Lourd, en laine, et prends aussi au passage une chope d'eau. » Il dut juger dégradant de jouer les garçons de course pour un simple d'esprit, mais préférable néanmoins à demeurer près de moi. Comme il s'en allait au trot, Tram poussa un soupir. « La vérité doit régner entre vous deux, » déclara-t-il. Par ce moyen seul, vous parviendrez à établir un contact avec lui. Or, il a grand besoin de vous. Je ne m'en rends compte qu'à présent. Il s'est enfui de chez lui. Il s'est sauvé devant vous. Il doit cesser d'esquiver les problèmes, ou il n'apprendra jamais à les affronter et à les régler. Ainsi, il me considérait comme un des problèmes de l'Est. Je détournai le regard. Je m'occuperai de lui. D'un air las, il soupira de nouveau. « Je m'en remets à vous. » Il regagna la table et se mêla à la conversation des vifiers. Peu après, tous quittèrent la cabine et le prince reprit la répétition de son discours. Le temps que l'Est revint avec les couvertures et la chope demandée,
J'avais fouillé dans la collection de manuscrits de devoirs, et j'en avais choisi plusieurs dont l'étude, pensais-je, profiterait au jeune garçon. À ma grande surprise, j'en découvris quelques-uns que je ne connaissais pas. Imbre avait dû se les procurer juste avant notre départ. Il traitait des aspects sociaux et coutumiers des îles d'outre-mer. Je mis de côté les plus simples. Je m'efforçais d'améliorer le confort de Lourd. Sa température montait et la musique qu'il artisait devenait de plus en plus fantastique. Il n'avait toujours rien mangé, mais au moins, il avait renoncé à lutter contre mon aide quand je portais la chope à ses lèvres. Je veillais à ce qu'il la bût tout entière, puis le rallongeait sur le lit et le bordait dans ses couvertures en me demandant comment la chaleur de la fièvre pouvait donner l'impression qu'on avait froid. Quand j'eus fini, je surpris le regard dégoûté que l'Est posait sur nous. « Il sent mauvais, » dit-il devant mon expression de reproche. « Il est malade. » Je montrai le plancher du doigt tout en me rasseyant au bord du lit. « Installe-toi là et lis ce parchemin tout haut, mais pas trop fort. »« Non, celui avec le bord déchiré. Oui, celui-là. »«
Qu'est-ce que c'est ?»
demanda-t-il en déliant le parchemin, puis en l'ouvrant. « Une description de l'histoire et du peuple des îles d'outre-mer. »
Pourquoi dois-je la lire ?
J'énumérais les raisons sur mes doigts. Parce que tu dois t'exercer à la lecture, parce que nous nous rendons dans ces îles et qu'il te faut connaître un peu ces gens afin de ne pas faire honte à ton prince, parce que l'histoire des six duchés est inextricablement liée à la leur, et enfin, parce que je te le dis. Il baissa les yeux, mais je le sentis toujours aussi braqué. Je dus le relancer avant qu'il commence à lire, mais une fois en route, il se prit d'intérêt pour le texte, je crois. La mélodie de sa voix enfantine avait un effet lénifiant, et je laissais mes pensées flotter sur elle sans prêter attention au sens des mots. Il lisait toujours quand Imbre entra dans la cabine. Je n'accordais pas un regard au vieillard tandis qu'il s'entretenait à mi-voix avec Devoir. Enfin, l'art du prince m'effleura.
« Imbre voudrait que vous congédiez l'Est un moment, afin que nous puissions parler librement. »
« Un instant. » Je hochai la tête, comme en réponse à un passage que l'enfant venait de terminer, et profitant de ce qu'il reprenait sa respiration, je posai la main sur son épaule. « Ça suffit pour aujourd'hui, tu peux te retirer. Mais je me trouverai à mon poste ici même, demain, et tu devras y venir aussi. Je t'attendrai. »
« Oui, messire. »
Il n'y avait ni plaisir, ni résignation dans sa réponse. Il signalait seulement avoir bien entendu ma recommandation. Je réprimai un soupir. Il s'approcha du prince, s'inclina et put sortir. Sur une petite suggestion que j'artisais, Devoir l'informa qu'il considérait l'instruction comme un avantage pour tout un chacun et que lui aussi souhaitait voir l'Est ponctuel à ses leçons quotidiennes. Cette remarque lui valut, comme à moi, l'acquiescement sans enthousiasme du jeune garçon qui sortit ensuite de la cabine. La porte à peine refermée, Imbre se précipita vers moi.
« Comment va-t-il »
demanda-t-il d'un ton grave en touchant la joue du malade. « Il a de la fièvre et il tousse. Il a bu, mais n'a rien mangé. » Le vieil assassin s'assit lourdement sur le lit. Il prit le pouls du simple d'esprit sous la mâchoire, puis glissa la main par son col pour juger de sa température. «
Depuis combien de temps n'a-t-il rien avalé de solide ?»
me demanda-t-il. « Le dernier repas qu'il a conservé remonte à au moins 3 jours. » Imbre poussa un soupir sonore.
« Eh bien, il faut commencer par l'alimenter. On lui donne des bouillons salés avec des morceaux de viande tendre et des légumes. »
Je hochai la tête en signe d'assentiment. Mais Lourd émit un gémissement et se tourna vers la cloison. Sa musique avait pris une étrange tonalité détachée, comme si elle s'estompait au loin ou se déversait là où je n'avais pas accès. La main d'Imbre me ramena à la réalité.
« Que lui as-tu fait la nuit dernière ? Crois-tu être responsable de sa maladie ?»
Sa question me laissa abasourdi, et j'y répondis à voix haute. « Non, non, à mon avis, elle résulte seulement de son mal de mer. » Des nuits passées sous la pluie et du manque de nourriture. Peut-être Lourd avait-il perçu notre échange d'art, car sa tête roula vers moi. Il me lança un regard sinistre, puis ses paupières retombèrent. Imbre s'écarta du lit et me fit signe de l'imiter. Il se laissa tomber sur un banc rembourré fixé sous un des hublots et m'indiqua par geste de prendre place à ses côtés. Le prince disposait les pions pour une partie de cailloux. Il s'interrompit pour nous observer avec curiosité.
« C'est tout de même étrange. Parler à voix basse reste peut-être le seul moyen de préserver la discrétion sur ce dont je veux t'entretenir. »
Il pointa l'index vers la fenêtre comme s'il me montrait un objet sur la mer. Je me penchai et hochai la tête. Il sourit et murmura à mon oreille.
« Je n'ai pas pu dormir la nuit dernière. Je me suis livré à des exercices d'art et j'ai l'impression de devenir de plus en plus sensible à la magie. La musique de lourd était omniprésente et échevelée. Tout à coup, j'ai senti quelqu'un, une présence. La tienne, m'a-t-il semblé, mais aussi une autre, dont j'ai eu le sentiment de l'avoir déjà entreaperçue. Elle a gagné en force et en autorité, puis la musique de lourd s'est calmée. »
Sidéré qu'il eût acquis assez de maîtrise de l'art pour capter l'intervention d'Ortie, je gardai le silence un peu trop longtemps avant de demander d'un air innocent.
Une autre présence ?
Il sourit.
Celle d'Ortie, je pense. C'est ainsi que tu l'attires dans notre clan.
Pas vraiment, répondis-je, et j'eus l'impression qu'un mur s'écroulait en moi quand je lui révélai mon secret. Je m'en voulais, mais en même temps je ne pouvais nier le soulagement que j'éprouvais à m'épancher. Je pris conscience brusquement que j'en avais assez de mes cachotteries, à tel point qu'il me devenait impossible de les préserver. Imbre pouvait bien apprendre tout sur Ortie et son talent. Je ne l'en laisserai pas se servir d'elle pour autant. Je lui ai demandé un service. Je devais lui annoncer que l'Est était hors de danger et que je le protégeais. Avant notre départ, je lui avais affirmé qu'il rentrait chez lui, et je ne pensais pas mentir. Quand j'ai découvert qu'il avait embarqué en compagnie de Tram, ma foi, je ne pouvais pas la laisser dans l'incertitude, à imaginer son frère assassiné, son cadavre au fond d'un fossé.
« Naturellement, » murmura Imbre.
Dans ses yeux brillait un féroce appétit de renseignement. Je le rassasiais. En échange, je l'ai prié de calmer le cauchemar de Lourd. J'avais déjà remarqué son talent pour modeler ses propres rêves. La nuit dernière, elle a démontré sa capacité à intervenir sur ceux des autres. J'observais l'expression du vieil assassin aussi avidement qu'il me dévisageait, tandis qu'il réfléchissait aux usages potentiels d'une telle faculté et que des étincelles s'allumaient dans ses yeux devant la puissance d'une pareille arme. Commander aux images qui traversent l'esprit d'un homme, conduire ses pensées vulnérables vers des chenaux noirs et désespérés, ou au contraire exaltants et pleins de beauté, que ne pouvait-on accomplir avec semblable instrument ? Déséquilibrer un ennemi par des terreurs nocturnes, inspirer un mariage politique fondé sur des rêves d'amour, ou instiller le poison de la méfiance dans une alliance. Non, fis-je à mi-voix. Ortie n'a pas conscience de son pouvoir. Elle ignore même qu'elle fait usage de l'art. Je ne veux pas l'intégrer à notre clan, Imbre. Et je débitais alors le mensonge le plus astucieux que j'eusse jamais inventé aussi vite. S'il l'avait su, mon vieux maître eût été fier de moi. Elle travaillera mieux pour nous en solitaire. Sans se rendre compte de la portée de ses interventions, nous pourrons la manœuvrer plus aisément ainsi, tout comme moi lorsque, adolescent, j'obéissais aux ordres sans les comprendre. Il hocha gravement la tête sans même chercher à réfuter cette dernière assertion. Je perçus alors l'existence d'un défaut dans sa cuirasse. Il m'aimait, et pourtant, cela ne l'avait pas empêché de se servir de moi, ni de permettre à d'autres de l'imiter, tout comme on s'était servi de lui autrefois peut-être. Il ne soupçonna pas un instant que je comptais bien épargner un tel destin à Ortie.
« C'est la meilleure solution, et je me réjouis que tu en aies enfin pris conscience, » dit-il.
« Que regardez-vous ainsi dehors ?»
demanda Devoir. Il se leva et s'approcha de la fenêtre. Imbre répondit par une calombredaine, selon laquelle nous nous intéressions à une illusion d'optique. En fixant d'abord notre attention sur les navires qui nous suivaient, puis en clignant les yeux, on avait l'impression un instant qu'ils flottaient au-dessus des vagues.
« Et de quoi souhaitiez-vous vous entretenir en privé ?»
reprit le prince. Umbre profita d'une inspiration pour se creuser les méninges à la recherche d'un sujet plausible.
« Je trouve que tout s'arrange à merveille. Lou et Fitz se présentent dans votre cabine. Tout notre clan est réuni. » Il serait bon de répandre le bruit que l'ours s'est pris d'affection pour Tom Blaireau et désire qu'il reste près de lui. Ainsi, nul ne s'étonnera qu'un simple garde demeure si proche du prince, même après la guérison de l'ours.
Il me semble que nous avions déjà discuté de cette question, non ? Fit Devoir d'un ton perplexe.
Vraiment ? Ah, c'est possible. Veuillez excuser un vieillard dont l'esprit s'égare parfois, monseigneur.
Le prince émit un petit grognement sceptique. Discrètement, je battis en retraite jusqu'au chevet du simple d'esprit. La fièvre ne l'avait pas quitté. Umbre appela un domestique et lui donna une liste de plats à préparer, propre, selon lui, à revigorer le malade. Je songeai à la cuisinière hargneuse à qui j'avais eu affaire et plaignis le jeune serviteur. Il revint, d'ailleurs, bien trop vite, avec une tasse d'eau chaude dans laquelle nageait un morceau de viande salée. Le conseiller royal, furieux, envoya un autre laquais avec des ordres précis et sévères. Je réussis à faire boire un peu d'eau à l'ours, puis écoutai avec inquiétude sa respiration, de plus en plus rauque. Le repas arriva enfin, beaucoup plus substantiel que le premier, et je parvins à en faire avaler quelques bouchées à mon patient. Il avait mal à la gorge et souffrait à chaque déglutition, si bien que l'opération prit du temps. Sur les instructions d'Imbre, la cuisinière m'avait aussi confectionné un encas afin que je pusse me restaurer sur place, et cela devint le quotidien de mes repas. J'appréciais de pouvoir manger à loisir sans avoir à disputer mes rations à mes camarades de la garde, mais je me retrouvais aussi coupé des bavardages du bord, hormis ceux de Lourdes, d'Imbre et de Devoir. Pour ma première nuit dans la cabine du prince, j'espérais pouvoir dormir à point fermé. Mon malade avait cessé de s'agiter et de gémir et paraissait calme. Je me laissais aller à souhaiter qu'il eût trouvé quelque paix intérieure. Ma paillasse barrait l'entrée de son placard. Je fermais les yeux, n'aspirant qu'au repos, mais je pris une profonde inspiration, me concentrai et plongeai dans le rêve de lourd. Il n'était pas seul. Le chaton se pelotonnait sur son coussin au milieu d'un grand lit, tandis qu'Orty se déplaçait dans la pièce, apparemment occupée au tâche vespérale d'une maison. Fredonnant, elle pliait des vêtements jetés ça et là, rangeait des assiettes et des couverts dans des buffets. Quand elle eut fini, tout était parfaitement en ordre, sans une trace de poussière.
« Là, » dit-elle au chaton qui l'observait, « tu vois, tout va bien. Chaque chose est à sa place, propre et nette. Et toi, tu n'as rien à craindre. Bonne nuit, petit bonhomme. »
Elle se dressa sur la pointe des pieds pour souffler la lampe, et je remarquai ce qui m'avait bizarrement échappé jusque-là. Je savais qu'il s'agissait d'Orty, mais je l'apercevais par le regard de lourd comme une femme courtaude et ventripotente, avec de longs cheveux grisonnants noués en chignon et le visage ridé. « Sa mère, » me dis-je, et je compris alors qu'elle avait eu son enfant très tard. On aurait pu la prendre pour sa grand-mère. Puis le rêve s'éloigna de moi, comme si je me reculais d'une fenêtre éclairée. Je promenais mon regard autour de moi. Nous étions revenus sur la colline. Je me trouvais au pied de la tour fondue. Le roncier noir et mort m'encerclait, et Orty se tenait près de moi.
« C'est pour lui que je fais ça, non pour toi !» déclara-t-elle d'un ton brusque. « Souffrir de rêves aussi imprégnés de terreur, c'est horrible !»«
Tu es en colère contre moi ?»
demandai-je d'une voix lente. Je redoutais sa réponse. Elle ne me regarda pas. Venue, je ne sais d'où, un vent glacé soufflait entre nous.
Que signifia réellement le message que tu m'as donné à transmettre à mon père ? Serais-tu vraiment une bête insensible, fantôme de loup, pour te servir de moi afin de lui percer le cœur ?
Oui, non.
La vérité me faisait défaut. J'aurais aimé lui dire que jamais je ne voudrais de mal à Burick. Mais était-ce exact? Il s'était approprié Molly. Certes, il me croyait mort et il ne nourrissait aucune mauvaise intention. Mais il me l'avait prise quand même. Il avait aussi élevé ma fille dans la paix et la sécurité. Oui, c'était vrai, et je lui en savais gré. Mais elle verrait toujours son visage quand elle entendrait le mot « papa ».
C'est toi qui as insisté,
fis-je avant de me rendre compte de la dureté de mon ton. Et, comme dans les contes d'autrefois, tu as exaucé mon vœu et il m'a brisé le cœur.
Que s'est-il passé ?
Demandai-je avec réticence. Elle n'avait aucune envie de me le raconter, et pourtant, elle s'exécuta. Je lui ai dit que j'avais fait un rêve. Un loup avec un piquant de porc-épic planté dans le museau m'avait promis de veiller sur l'Est et de le reconduire à la maison sain et sauf. Puis, j'ai répété ta phrase. Comme toi jadis, je protège et je guide aujourd'hui ton fils. Je le défendrai contre tout péril et, une fois ma tâche achevée, je te le ramènerai vivant et en bonne santé.
Et alors ?
Ma mère pétrissait le pain. Et elle m'a conseillé de m'abstenir de parler de l'Est, si je n'avais que faribole à la bouche. Mais elle nous tournait le dos et elle n'a pas vu la réaction de mon père assis à la table avec moi. Ses yeux se sont écarquillés et, pendant un moment, il est resté à me dévisager, comme changé en pierre. Puis il s'est écroulé de sa chaise et il est demeuré par terre, avec le regard fixe d'un cadavre. J'ai cru que la mort l'avait terrassé d'un coup. Mes frères et moi l'avons transporté sur son lit, redoutant le pire. Ma mère terrifiée ne cessait de lui demander ce qu'il avait, où il était blessé, mais il ne répondait pas. Au bout d'un moment, il a seulement placé ses mains sur ses yeux. Il s'est roulé en boule comme un enfant battu. Et il s'est mis à sangloter. Il a pleuré ainsi toute la journée, sans dire un mot à personne. Tout à l'heure, à la nuit tombante, je l'ai entendu se lever. Je me suis rendu à la balustrade de ma soupente. Il avait revêtu sa tenue de voyage, et ma mère s'accrochait à son bras en le suppliant de rester. Mais il a déclaré « Femme, tu ignores ce que nous avons commis, et je n'ai pas le courage de te le dire. Je suis un lâche. Depuis toujours, je suis un lâche. » Et il s'est dégagé. Puis il est parti.
Pendant un terrible instant, j'imaginais Molly repoussée, abandonnée, et je me sentis anéanti. Je réussis tout de même à demander. Où est-il allé ?
Je ne sais pas où tu te trouves, mais à mon avis, il est en route pour te rejoindre.
Elle s'exprimait laconiquement. Néanmoins, je perçus de l'espoir dans sa voix, l'espoir que quelqu'un sût où son père se rendait et pourquoi. Je dus le briser. C'est impossible, mais je crois avoir une idée de sa destination, et dans ce cas, il reviendra bientôt.
Castelcerf, me dis-je. Toujours direct, il gagnerait Castelcerf dans l'intention de mettre Imbre au pied du mur et de l'interroger. Mais c'est à Ketriken qu'il aurait affaire, et elle lui révélerait tout, comme elle avait révélé à Devoir ma véritable identité, parce que seule la vérité comptait à ses yeux, même si elle devait meurtrir celui qui l'entendait. Tandis que je réfléchissais ainsi, Horty reprit.
« Qu'ai-je fait ?»
La question n'avait rien de rhétorique.
« Je me suis cru maligne. J'ai cru être capable de marchander avec toi et d'obtenir le retour de mon frère à la maison. Mais au lieu de cela, qu'ai-je fait ? Qui es-tu ? Cherches-tu notre perte ? En veux-tu à mon père ?»
Puis d'un ton encore plus angoissé, elle demanda.
« Mon frère, se trouve-t-il en ton pouvoir ?»«
N'aie pas peur de moi, je t'en prie. Tu n'as aucune raison de me craindre. »
répondis-je précipitamment. Puis... je m'interrogeais. Était-ce bien vrai ?
L'Est se porte bien, et je te promets de tout mettre en œuvre pour vous le renvoyer le plus vite possible.
Je m'interrompis. Que pouvais-je lui dire d'autre sans danger ? Ma fille n'avait pas une cervelle de linotte. Trop d'indices, et elle risquait de percer le mystère. Alors, selon toute probabilité, je la perdrais pour toujours.
J'ai connu ton père, il y a longtemps. Nous étions très proches. Mais j'ai fait des choix qui allaient à l'encontre de ses principes, et nos chemins ont bifurqué. Il me croit mort depuis des années. Par les mots que tu lui as rapportés, il sait à présent qu'il se trompait. Comme je ne suis jamais venu le voir, il est persuadé de m'avoir infligé un grand tort. C'est faux, mais si tu as une idée de la personnalité de ton père, tu sais qu'il n'obéit qu'à ses convictions.
Tu l'as connu il y a longtemps ? Et ma mère aussi ?
J'ai connu Burik, bien avant ta naissance. Je ne mentais pas vraiment, mais je l'égarais néanmoins, et je la laissais s'enferrer.
« C'est pourquoi le message ne signifiait rien pour ma mère ?»
conclut-elle à mi-voix après un instant de réflexion. « Oui. Avec circonspection, je poursuivis. Comment va-t-elle ?»«
Mal, évidemment !»
Ma stupidité l'agaçait.
« Elle est sortie. Elle lui a crié sur tous les tons de revenir pendant qu'il s'éloignait, puis, quand elle est rentrée... Elle s'en est prise à nous tous, en demandant au Dieu pourquoi elle avait épousé un homme au caractère aussi rigide. 10 fois, elle a voulu savoir ce que je lui avais dit, et 10 fois je lui ai raconté mon rêve. J'ai bien failli lui révéler tout ce que je sais de toi, mais ça n'aurait servi à rien, puisqu'elle ne te connaît pas.
Pendant une fraction de seconde qui me glaça, je vis la scène par les yeux d'Orty. Molly se tenait au milieu de la route. Dans ses efforts pour retenir Burick, ses cheveux s'étaient défaits, bouclés comme autrefois, et il dansait sur ses épaules, tandis qu'elle agitait le poing. Son cadet, à peine âgé de 6 ans, s'agrippait à ses jupes et sanglotait de terreur devant le spectacle incompréhensible de son père abandonnant sa mère. Le soleil couchant sanglotait le paysage.
« Vieil imbécile aveugle !»
hurla Molly à son époux, et ses mots me firent l'effet d'une grêle de pierre.
Tu vas te perdre ou te faire dépouiller, tu ne rentreras jamais !»
Mais elle n'entendit pour toute réponse que le claquement des sabots qui s'éloignaient. Soudain, Orty se détourna de ce souvenir douloureux, et je m'aperçus que nous ne nous trouvions plus sur la colline près de la tour fondue, mais dans une soupente. Mes oreilles de loup effleuraient les poutres basses. Ma fille était assise dans son lit. Les genoux remontés contre la poitrine. Derrière le rideau qui nous séparait du reste du grenier, j'entendais le bruit de la respiration de ses frères. L'un d'eux s'agita dans son sommeil et poussa un cri effrayé. Nul ne faisait de rêve paisible dans la maison cette nuit-là. Je redoutais plus que tout au monde qu'elle ne parlât de moi à Molly, mais je n'osais lui demander de se taire, car elle comprendrait alors que j'avais menti. Ne soupçonnait-elle pas déjà, peu ou prou, une relation entre sa mère et moi ? Je ne répondis pas directement à sa dernière remarque.
« Je ne pense pas que ton père restera absent longtemps. À son retour, veux-tu me prévenir afin d'apaiser mes inquiétudes ?»«
S'il rentre, » murmura-t-elle,
et je sus alors que Molly avait exprimé tout haut les craintes bien réelles de toute la famille. Avec réticence, comme si dire la vérité risquait de lui donner corps, Orty poursuivit.
Il s'est déjà fait détrousser et rouer de coups alors qu'il était parti seul à la recherche de l'Est. Il ne l'a jamais avoué, mais nous sommes tous au courant de cette aventure. Ça ne l'a pas empêché de recommencer.
C'est Burick.
Je préférais garder pour moi l'espoir que je nourrissais, celui qu'il avait choisi une monture qu'il connaissait bien. Jamais il ne se servirait du vif pour entrer en contact avec elle, mais les animaux avec lesquels il travaillait n'en communiquaient pas moins avec lui.
« Oui, c'est mon père, »
fit-elle avec un mélange de douleur et de fierté. Et tout à coup, les murs de sa chambre se mirent à couler comme des lettres ancrées sur lesquelles tombent des larmes, et Orty disparut de mon rêve en dernier. Quand je revins à moi, mon regard aveugle était braqué vers un angle obscur de la cabine du prince. Les jours et les nuits s'écoulèrent monotones, et l'état de Lourdes ne changea guère, ni en mieux, ni en pire. Il retrouvait quelque vigueur l'espace d'une journée, puis sombrait à nouveau dans la fièvre et les quintes de toux. Son affection physique, bien réelle, avait chassé sa crainte du mal de mer, mais ce ne m'était qu'un maigre réconfort. À plusieurs reprises, je fis appel à Orty pour dissiper ses rêves de fièvre avant qu'ils ne sèment leur angoisse dans l'équipage. Les marins sont gens superstitieux. Lourdes leur imposait un cauchemar commun et, lorsqu'ils échangeaient leurs souvenirs de la nuit, ils y voyaient un avertissement des dieux. Cela ne se produisit qu'une fois, mais nous frôlâmes la mutinerie. Avec une fréquence et une intimité plus grande que je ne l'aurais souhaité, j'œuvrais en compagnie d'Orty sur les songes d'art. Elle ne parlait pas de Burick, et je ne l'interrogeais pas, mais j'en suis sûr, elle aussi comptait les jours depuis son départ. Je lui faisais confiance pour m'informer des nouvelles qu'elle pouvait recevoir de lui.
L'absence de son père dans sa vie me ménageait une place, et sans que je voulusse, je sentais le lien entre nous s'affermir jusqu'à me permettre de rester conscient d'elle à tout moment. Elle m'a pris, sans s'en apercevoir, à me glisser derrière les rêves de Lourdes et à les manipuler, à les orienter avec douceur vers des images rassurantes. Je n'avais pas son talent. Le mien s'arrêtait à suggérer. Le sien lui donnait la faculté de rééquilibrer, d'harmoniser les songes. En deux occasions, je sentis qu'Imbre nous observait. Je m'en irritais, mais qu'y faire? Manifester que je percevais sa présence aurait attiré l'attention d'Ortie sur lui. Toutefois, en feignant de ne pas le remarquer, je lui rendais service car il gagnait en hardiesse, et je voyais grandir et se consolider l'art de mon vieux mentor. N'en avait-il pas conscience, ou bien cherchait-il à me le dissimuler? Je l'ignorais, mais me gardais bien de lui faire part de mes interrogations. Les voyages en mer ne m'ont jamais passionné. Quand on a vu un paysage marin, on les a tous vus, et, au bout de quelques jours, la cabine du prince me parut aussi exiguë, étriquée et oppressante que la cale que se partageaient mes camarades de garde. L'absence de variété des menus, le tangage incessant et mon inquiétude pour la santé de Lourdes sapaient mon énergie. Notre clan incomplet progressait peu lors de nos leçons d'art. L'Est se présentait à moi tous les jours. Ses lectures à voix haute lui permettaient de connaître les îles d'outre-mer et, à moi, de rafraîchir ma mémoire. À la fin de la séance, je lui posais quelques questions afin de m'assurer que le savoir se gravait en lui et ne se bornait pas à entrer par ses yeux et à ressortir par sa bouche. Il retenait bien ce qu'il apprenait et quêtait parfois quelques éclaircissements. Rarement gracieux, il se montrait néanmoins soumis à son professeur, et je n'en demandais pas plus. Sa présence paraissait exercer un effet apaisant sur Lourdes. Le petit homme se détendait et certains plis s'effaçaient de son visage tandis qu'il prêtait l'oreille à nos échanges. Il intervenait peu, respirait laborieusement et toussait parfois à en perdre le souffle. Le convaincre d'avaler quelques cuillerées de bouillon prenait un temps infini et nous laissait tous deux épuisés. Le ventre rond qu'il avait gagné au château fondait et des cernes sombres se creusaient sous ses petits yeux. Jamais je n'avais eu affaire à créature plus malade que lui. Et le fatalisme avec lequel il acceptait sa situation me fendait le cœur. Il se voyait mourant, et, même dans ses rêves, je ne parvenais jamais à chasser complètement cette idée. Devoir ne pouvait m'apporter aucune aide. Il faisait de son mieux, et il éprouvait une affection sincère pour Lourdes. Mais il avait 15 ans, et il demeurait un enfant par bien des aspects. Qui plus est, un enfant courtisé par ses nobles qui inventaient chaque jour de nouveaux divertissements pour l'attirer auprès d'eux. Loin de l'affluence austère de Kétriken, il l'accablait de distractions et de flatteries. Béiol allait et venait entre les navires de la flotte de fiançailles pour transporter les aristocrates qui rendaient visite au prince, mais aussi Imbre et lui qui embarquaient à bord des autres bâtiments à l'occasion de soirées où l'on se régalait de poésie, de chansons et d'alcool fin. Ces transbordements visaient à lui éviter l'ennui d'un voyage monotone, et il n'y réussissait que trop bien. Mais la charge de devoir l'obligeait à répartir équitablement ses faveurs et ses attentions entre les membres de sa suite. Le succès de son règne dépendait des alliances qu'il forgerait pendant son périple, et il ne pouvait guère refuser les invitations qu'on lui lançait. Cependant, je m'inquiétais de la facilité avec laquelle il se laissait distraire de son serviteur souffrant. Je trouvais mon seul réconfort auprès de Tram. Il venait chaque jour me proposer, sans ostentation, de veiller sur Lourdes pendant que je m'octroyais un peu de temps libre. Incapable, naturellement, de relâcher complètement ma vigilance, je maintenais ouverte ma conscience de Lourdes par le biais de l'art, de crainte qu'il ne nous entraîne tous, impromptus, dans un cauchemar échevelé et empreint d'effroi. Cette relève me permettait néanmoins de quitter la cabine exiguë pour faire quelques pas sur le pont et jouir du vent sur mon visage. Toutefois, cet arrangement m'interdisait de m'entretenir seul à seul avec Tram, ce que je ne souhaitais pas seulement pour obéir aux instructions d'Imbre. Son amabilité et son efficacité discrète m'impressionnaient chaque jour davantage. J'avais le sentiment qu'il cherchait à entrer dans mes bonnes grâces, non comme les nobles courtisaient de voir, mais comme Burik s'imposait en douceur à un cheval dont il désirait reprendre le dressage. Et il y parvenait, bien que je fusse conscient de son manège. Après chacun de nos échanges, je me sentais un peu moins de méfiance et de circonspection à son égard. Je ne voyais plus comme une menace, mais presque comme un réconfort qu'il connût mon identité. Dans mon esprit se pressait une foule de questions que je mourais d'envie de lui poser. Combien de membres du lignage savaient que Fitz-Chevalerie vivait toujours? Combien que lui et moi ne faisions qu'un? Mais je n'osais pas les exprimer devant Lourd, malgré ses errances dans ses rêves fébriles. À qui n'eût-il pu répéter mes paroles, dans ses songes ou la réalité? Tard un soir, alors que le prince et Imbre venaient de rentrer à la suite de quelques divertissements, j'attendis que Devoir eût donné congé à ses domestiques. Le vieil homme et l'adolescent s'assirent, un verre de vin à la main, sur le banc capitonné sous la fenêtre qui donnait sur notre sillage et se mirent à bavarder à mi-voix. Je quittai le chevet de Lourd et, me dirigeant vers la table, leur fis signe d'approcher. Malgré la fatigue de plusieurs longues parties de cailloux avec cire excellent, ils obéirent aussitôt intrigués. Sans préambule, je demandai à Devoir. Tram vous est-il avoué savoir que je suis Fitz-Chevalerie? Il n'eut pas besoin de répondre. Son expression ébahie me suffit amplement.
Était-il nécessaire de le mettre au courant?
Grommela Imbre à mon attention. Le prince ne me laissa pas le temps de réagir.
Y a-t-il une raison de me le cacher?
Rétorqua-t-il plus sèchement que je ne m'y attendais.
Aucune. Sinon que ce petit détail n'a pas de rapport avec notre présente mission. Je m'efforce de ne pas détourner vos pensées des affaires les plus pertinentes, prince Devoir.
Imbre s'exprimait avec raideur. Peut-être, conseiller, pourriez-vous me laisser juge des affaires auxquelles accorder cette pertinence? L'âpreté de la voix de l'adolescent me fit comprendre qu'ils avaient déjà débattu de ce sujet. Rien ne vous permet donc de penser que quelqu'un d'autre dans votre clan de vifs sait qui je suis. Le prince hésita, réfléchit.
Rien. Nous avons parlé du bâtard aux vifs de temps en temps, naturellement, et maintenant que j'y songe, toujours à l'initiative de Tram. Mais il aborde la question de la même façon qu'il nous enseigne l'histoire et les traditions du vif. Il parle, puis il nous soumet des interrogations qui nous conduisent à une compréhension plus approfondie du sujet. Jamais il n'a évoqué Fitz-Chevalerie autrement que comme une figure historique.
J'éprouvais un petit frisson d'effroi à m'entendre décrire comme une figure historique. Imbre intervint avant que mon malaise s'accrût.
Ainsi, Tram fait office de professeur de votre clan. Il vous entretient d'histoire, de tradition, de quoi encore?
De bienséance. Il nous raconte de vieilles histoires de gens et de bêtes douées du vif, et il nous explique comment nous préparer avant d'entamer une quête pour trouver un compagnon animal. Ce qu'il nous apprend, j'ai l'impression que les autres le savent depuis l'enfance. Mais il s'adresse à l'Est et moi. Pourtant, quand il narre ses contes, tout le monde l'écoute attentivement, surtout Niel le ménestrel. Je crois qu'il détient un savoir qui a bien failli disparaître, et il nous le confie afin que nous le préservions et le transmettions à notre tour.
Je hochai la tête. Quand les persécutions ont détruit leur communauté, les vifiers ont dû cacher leurs coutumes et leurs sciences. Inévitablement, une partie s'en est perdue d'une génération à l'autre.
À votre avis, pourquoi Tram parle-t-il de Fitz-Chevalerie?
Fit Imbre d'un ton songeur. Devoir réfléchit, étudiant la question de la manière dont le vieil assassin m'avait appris à analyser les actes d'un homme. Qu'y a-t-il à y gagner? Qui s'en trouve menacé?
Peut-être me soupçonne-t-il d'être au courant de son identité? Mais je n'y crois guère. À mon sens, il soumet ce sujet au clan de vif afin de nous inciter à nous demander. Quelle est la différence entre un souverain doué du vif et un souverain qui ne le possède pas? En quoi les six duchés se seraient-ils trouvés changés si Fitz avait accédé au pouvoir au lieu de périr exécuté à cause de sa magie? Quelles seront les répercussions sur le royaume si je puis un jour révéler en toute sécurité que j'appartiens au lignage? Et quel profit mon peuple tout entier, peut-il espérer d'un monarque du lignage? Comment mon clan de Vif peut-il m'aider pendant mon règne ?»«
Pendant votre règne ?» fit Imbre d'un ton vif. « L'ambition de vos amis s'étend-elle si loin dans l'avenir ? Il était question qu'ils vous assistent dans votre présente quête afin de montrer au Siduché que le Vif peut servir au bien. Est-ce qu'ont-ils conservé leur fonction de conseiller après cette tâche ?»
Devoir le regarda, le front plissé. « Évidemment. » Voyant que le vieil homme fronçait les sourcils avec irritation, j'intervins. « Cela me paraît naturel, Imbre. Surtout si leur aide se révèle défective durant le voyage. Les rejeter après les avoir utilisés ne correspondrait pas à la sagesse politique que vous m'enseignez depuis toujours. » Il gardait la mine sombre.
« Ma foi, j'imagine que, s'ils démontrent une certaine efficacité, ils attendront une compensation. »
Le prince ne haussa pas le ton, mais je sentis qu'il se dominait. « Et quelle rétribution pensez-vous qu'il demanderait s'il s'agissait d'artiseur et non de vifier ?» J'eus tant l'impression d'entendre Imbre lui-même que je faillis éclater de rire. L'autre se hérissa.
« La question n'a aucun rapport, voyons. L'art est votre magie héréditaire et elle possède une puissance infiniment supérieure à celle du vif. » Il serait tout à fait normal que vous vous liiez aux membres de votre clan d'art et que vous recherchiez autant leur société que leurs conseils. »
Il se tut brusquement. Devoir hocha lentement la tête. Le vif est aussi ma magie héréditaire, et j'ai dans l'idée qu'elle recèle bien plus de pouvoir que nous nous en doutons. Et j'éprouve un sentiment d'amitié et de confiance envers ceux qui partagent cette magie avec moi. Comme vous l'avez dit, c'est normal. » Imbre s'apprêtait à répondre, mais il se tut. Puis il ouvrit de nouveau la bouche, mais encore une fois il la referma. L'exaspération le disputait à l'admiration sur ses traits, quand il déclara enfin d'un ton posé.
« Très bien, je comprends votre raisonnement. Cela n'entraîne pas que j'en partage les conclusions, mais je le comprends.
Je n'en demande pas plus, » dit le prince, et j'entendis dans sa voix l'écho du monarque qu'il deviendrait. Le vieillard tourna son regard sombre vers moi.
« Pourquoi as-tu mis ce sujet sur le tapis ?»
me demanda-t-il d'un ton irrité, comme si j'avais voulu précipiter la querelle entre eux. « Parce que je tiens à découvrir ce que cherche Tram. Je sens qu'il essaye de s'insinuer dans mes bonnes grâces, d'attirer ma confiance. Dans quel but ?» Le silence absolu n'existe pas à bord d'un bateau. Le bois et l'eau, la toile et l'air n'interrompent jamais leur conversation. Ces voix furent les seules qu'on entendit dans la cabine pendant quelque temps. Enfin, Devoir émit un petit grognement. « Aussi invraisemblable que cela vous paraisse, Fitz, peut-être désire-t-il seulement votre amitié ? Je ne vois pas quel autre intérêt il aurait. »
« Il détient un secret, » répondit Imbre d'un ton aigre. « C'est toujours une ouverture sur le pouvoir. »
« Sur le danger aussi, » objecta Devoir. « Dévoiler ce secret présenterait autant de risques pour Tram que pour Fitz. Songez aux conséquences. Ne s'apprête-t-il pas ainsi ma future autorité de monarque ? Certains des nobles ne se retourneraient-ils pas contre ma mère et la reine, furieux qu'elle les ait trompés et qu'elle ait préservé la vie de Fitz ? » Un ton plus bas, il poursuivit. « N'oubliez pas qu'en révélant à Fitz qu'il connaissait son identité, Tram s'est mis lui-même en péril. Certains seraient prêts à tuer pour maintenir enfoui ce secret. » Je me tournai vers Imbre, plongé dans ses réflexions.
« De fait, la menace pèse autant sur votre règne que sur Fitz, »
concéda-t-il d'un air soucieux.
« Vous avez raison pour l'instant. Tram a tout intérêt à ne rien dire. Tant que vous vous montrez bien disposé envers les vifiés, ils n'auront aucun profit à vous déposer. Mais si d'aventure vous deviez vous opposer à eux ?»«
Si je devais m'opposer à eux ?» Le prince éclata de rire. « Imbre, interrogez-vous comme vous m'interrogez si souvent. Que se passerait-il ensuite ? Si on nous renversait, ma mère et moi, qui s'emparerait du trône ? Ceux qui nous en auraient jetés à bas, évidemment, et ils persécuteraient les vifiés plus durement qu'aucun autre ennemi que le lignage a dû affronter depuis ma naissance. Non. Je pense que Fitz n'a pas à s'inquiéter pour son secret.
Mieux encore, je crois qu'il devrait se départir de sa circonspection et accepter l'amitié de Tram.
Je hochai la tête en me demandant pourquoi cette perspective m'emplissait de malaise.
Je ne vois toujours guère d'avantage à ce clan de vifs,
fit Imbre entre haut et bas.
Vraiment? Pourquoi, dans ce cas, me questionnez-vous chaque jour sur ce qu'a vu la mouette de Tram? Vos inquiétudes ne s'apaisent-elles pas de savoir que tous les navires qu'elle a montrés à son compagnon sont d'honnêtes marchands ou de simples pêcheurs? Et songez aux nouvelles qu'elle nous a rapportées aujourd'hui. Elle a survolé le port et la ville de Zilig, et Tram les a observés par ses yeux. Il n'a remarqué aucun rassemblement, laissant croire à une agression ou une trahison. Certes, les rues grouillent de gens, mais il paraissait manifester une attitude festive. Cela ne vous rassure-t-il pas?
Sans doute, mais le réconfort est mince quand on sait à quel point la traîtrise se déguise aisément.
L'ours se retourna en marmonnant, et j'en profitai pour m'excuser et me rendre auprès de lui. Peu après, Imbre regagna sa propre cabine. Le prince se mit au lit, et j'installai ma paillasse le long de la couchette du simple d'esprit. Je songeais à Tram et Risk, et m'imaginais en train de regarder l'océan et les îles d'outre-mer par les yeux de l'oiseau. Cependant, avant que ma fantaisie n'eût le temps de me captiver tout entier, une vague de nostalgie pour Œil de Nuit me submergea. Cette nuit-là, je plongeais dans mes propres rêves, et des loups y chassaient au milieu de collines écrasées de soleil.